Et c'est aux fonctionnaires, on dit, elle va se battre pour une alliance de ce type. Si cette alliance n'est pas conclue, l'Union soviétique fera le maximum pour différer l'assaut allemand et passera un compromis. Je le dis et je le prouve, puisque j'ai travaillé sur les fonds des années 30. C'est-à-dire que quand Churchill, qui on le sait, est un remarquable personnage, mais aussi un grand menteur et un grand dirigeant de la coalition anti-bolchevique depuis le début de 1918, Churchill, quand il dit dans ses mémoires que le pacte germano-soviétique nous a frappés de stupeur et nous est tombé dessus comme une bombe, a commis un grand mensonge qu'il suffit, pour en être assuré, de lire les archives diplomatiques britanniques, très documentées, aussi documentées, sinon plus documentées que les archives publiées françaises. Donc l'Union soviétique, d'une part, a fait ce qui était prévu et ne l'a fait. Les archives sont catégoriques et en particulier le rapport du général Douminck qui a représenté la France à ce que j'appelle la farce de Moscou d'août 1939. Le rapport du général Douminck est catégorique sur le fait que l'Union soviétique n'a conclu en dernière instance avec l'Allemagne et ne commençant à négocier avec elle qu'à partir des 11 et 12 août, que parce que les Français et les Anglais lui refusaient l'alliance tripartite automatique qui avait été projetée et établie en 1914. Les archives sont catégoriques, on le savait, l'Angleterre le savait dans les années 1940, parce que beaucoup de choses ont été dites à cet égard. On ne le sait plus aujourd'hui parce qu'on nous a tellement seriné le contraire qu'on nous explique aujourd'hui que finalement c'est à cause du pacte germano-soviétique que la France a été accablée au surplus parce que l'Union soviétique fournissait massivement l'Allemagne. C'est faux. L'Union soviétique a très peu fourni l'Allemagne de 1939 à 1941 et je le montre notamment par les archives françaises, ce qui établit d'ailleurs que nos dirigeants qui racontaient à la population depuis septembre 1939 que pour vaincre l'Allemagne, il fallait frapper la Russie, eh bien leurs archives intérieures démontrent le strict contraire, puisque les archives de Vincennes établissent dans quelle mesure nos milieux dirigeants pensaient que la Russie contribuerait à la production allemande quand l'Allemagne aurait occupé la Russie.
Annie Lacroix-Riz, pour finir, parce que le temps vraiment nous manque, je voudrais qu'on évoque les relations entre le général de Gaulle et ces élites économiques que vous rendez, pas seulement économiques, vous avez fait la liste reprise de Marc Bloch, y compris les journalistes, j'ai bien noté. Les liens entre Pétain et ses élites économiques, on les devine.
Mais... Ah, ils sont clairs dans l'ouvrage.
Ouais, mais entre de Gaulle, est-ce qu'il y a une rupture entre de Gaulle et ces élites-là?
Alors, une chose est certaine. D'abord, il faut bien voir que dans les sources, de Gaulle est extrêmement peu présent avant 1940. Et simplement, de Gaulle est un cas rare d'officier très typique de son milieu, entouré de cagoulards. Je ne sais pas s'il l'a été lui-même, mais s'il ne l'a pas été, absolument tout son milieu a été cagoulard.
Rappelons ce que c'est que la cagoule.
La cagoule, pour faire très vite, c'est le regroupement de l'ensemble des ligues dont nous avons parlé tout à l'heure. À partir de 1935-1936, donc avant le mouvement ouvrier de 1936, que, en quelque sorte, le spécialiste de la synarchie et des ligues, ou surtout le spécialiste des ligues, le juge d'instruction Pierre Béteille, définit en quelque sorte comme le bras armé de la synarchie. C'est-à-dire que la synarchie se sert de la cagoule à partir de 1936, en quelque sorte pour établir une stratégie de la tension qui, pour les contemporains, sera bien décrite si on dit qu'elle ressemble à la stratégie de la guerre de Bologne. C'est-à-dire une stratégie de terreur, de crime, d'explosion.
Aveugle, vous savez,
voilà.
Indéterminé.
Voilà, il y a eu quelques cas, ils ne sont pas connus aujourd'hui, mais je les rappelle, qui doit favoriser cette atmosphère de désarroi dans laquelle les masses seraient incitées à se remettre à un homme de confiance que, par ailleurs, on mitonne et chauffe comme il faut depuis 1934.
C'est ce que l'extrême droite italienne avait tenté au début des années 70.
Exactement.
La gare de Bologne.
Voilà, c'est exactement la même chose. C'est une stratégie de la tension.